Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui? Nous allons aujourd'hui terminer notre petite série de catéchèses sur le regard, troisième et dernier moment sur cette belle réalité, surtout que nous allons parler du regard de Dieu sur nous. Dieu nous regarde et nous avons commencé... Hier, nous avons exploré un petit peu le regard de Jésus sur nous. Hier, nous allons terminer, nous allons voir un petit peu comment participer à ce regard de Dieu. Alors, confions cette catéchèse à la Vierge Marie qui n'a cessé de se laisser regarder par le Seigneur. Et à travers ce regard de Dieu, elle dira dans son Magnificat, le Seigneur s'est penché sur l'abaissement de sa servante, sur l'humilité de sa servante, sur son humble servante, et Marie a laissé Dieu se pencher. Marie a laissé Dieu la regarder. Alors Marie, aide-nous à ouvrir nos cœurs aujourd'hui, maintenant, à cet amour de Dieu qui nous regarde maintenant et à chaque instant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans l'Évangile, nous avons déjà commencé à explorer de beaux passages où Jésus regarde. Nous avons vu avec les disciples, avec le jeune homme riche. Un autre beau moment dans l'Évangile, c'est quand Jésus regarde et voit cette veuve, rappelez-vous, qui vient tout mettre de ce qu'elle possède dans le tronc du temple. Personne ne voit. Jésus le voit. Il est comme... le Père, parce qu'il fait un avec le Père voit dans le secret, rappelez-vous, dans tout l'Évangile, dans tout le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu, en ce qui concerne la prière, l'aumône, le jeûne, le Père voit dans le secret et il te le rend, il te récompense de ce que tu fais, de ce que tu vis à partir de cette communion vivante actuelle avec ton Père du ciel. Dieu voit dans le secret. Les hommes regardent selon les apparences, dit l'Écriture, mais Dieu voit le cœur. Il connaît les intentions profondes de notre cœur et parfois nous sommes maladroits. Parfois même, bon, c'est pas ce qu'on voulait faire, mais on fait un peu mal les choses, on est gauche comme on dit. Mais Dieu voit et le Père voit dans le secret et il sait donner la récompense. Alors Jésus voit dans le secret, il participe dans son humanité sainte, il participe au regard du Père sur toute chose. Rappelez-vous sur le lys des champs, tous les disciples qui suivent Jésus, et puis ils sont en train de marcher, ils ont beaucoup marché, et puis à un moment donné Jésus s'arrête, il dit « Vous avez vu les lys des champs ?»« Ben oui, ce sont des lys des champs. » »« Oui, sauf que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas bien regardé. » Vous avez vu des lys des champs, mais je vais vous montrer à bien regarder ces lys. Le Père les habille. Alors là, ils ne savaient pas. Ils avaient vu les lys, mais ils n'avaient pas bien regardé. De sorte qu'avec Jésus, ils ont dû réapprendre à regarder les lys des champs, cette création merveilleuse, ces créatures, et du coup... Et du coup, parmi les créatures, non seulement les étoiles qui sont très très loin, ou les étoiles qui sont proches et que nous voyons, ou les petits animaux que nous aimons bien, créatures du bon Dieu, mais bien sûr, nous-mêmes. Et puis nos frères et sœurs. Voilà l'objet de nos regards qui doivent être complètement réévangélisés. Parce que nous ne savons plus bien regarder. On regarde avec nos petits yeux et on voit si peu. Jésus, par exemple, lorsque il y a des foules qui le suivent, Jésus voit que la foule, ils sont comme des brebis sans berger. Les disciples, ils ont vu juste qu'ils étaient fatigués, c'était la fin de journée, ils avaient bien été attentifs aux longs enseignements de Jésus et puis on avait faim. Ils n'ont pas vu les disciples. Ils n'ont pas vu que ces gens qui étaient là avaient faim de la parole de Dieu et qu'ils étaient des brebis sans berger. Ils n'avaient pas vu. Ils ont été devant une gestion, des problèmes à résoudre. Ils étaient devant le faire face. Il fallait faire face. Et on avait un problème, c'est qu'on n'avait pas assez de pain. Alors Jésus leur dit, bon, comment est-ce qu'on règle le problème? Jésus leva les yeux. C'est comme ça qu'il nous est dit dans l'Évangile. Il lève les yeux. C'est comme ça qu'on résout. C'est comme ça qu'on passe du faire face au face à face. C'est comme ça que Jésus éduque notre regard, parce que nous, on voit les choses, on voit ce qui va mal, on voit ce qui est de travers, on voit ce qui est compliqué, on voit ce qui nous contrarie, on voit ce qui est beau aussi, puis on voit ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Mais Jésus nous montre, nous dit non, c'est ok, tu as tes analyses, tu analyses les choses, tu as un peu de discernement, un peu, beaucoup, pas du tout, bref, ok. Mais je vais t'apprendre à passer du faire face au face à face. Lève les yeux. Regarde que ce que tu vois, le Père habille les lys des champs. Regarde ce frère qui t'en veut, qui prend des distances par rapport à toi, qui ne t'appelle plus, qui pêche contre toi. Regarde, toi tu te mets devant l'offense. Tu vis les choses parce que tu souffres de l'offense qui est faite. Tu souffres de la blessure. Lève les yeux. Lève les yeux. Regardons par exemple Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, il revient des champs. Alors on lui dit, il y a un supplicié là, il faut que tu ailles donner un coup de main. Allez hop, hop, hop. Il n'y a pas trop le choix. Il y va. Comment Jésus a regardé Simon de Cyrène? Il a regardé avec beaucoup d'amour, de reconnaissance, parce que cet homme l'a aidé durant sa passion. Vous voyez, on ne connaît pas trop bien, on ne sait même pas du tout le niveau de sa foi de ce brave Simon. Est-ce qu'il était un grand croyant, un grand pratiquant? On ne sait pas. Mais Jésus l'a regardé et il est entré dans quelque chose qui l'a complètement dépassé. Comment tu vois Simon de Cyrène? Comme quelqu'un qui vient aider Jésus? Qui a fait un acte de charité ce jour-là, bon, c'est tout? Non. C'est quelqu'un dont le nom sera inscrit dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle, qui sera transmise de génération en génération. Jusqu'à la fin des temps, on parlera de Simon de Cyrène. Vous voyez bien la disproportion du petit regard qu'on peut avoir sur les situations. Et le regard de Dieu. Le regard de Dieu sur Simon de Cyrène. On dit, je vais me servir de cet acte de charité pour que toutes les générations contemplent ma passion. Tu vois, Simon, tu revenais des champs, tu étais fatigué, tu n'avais pas prévu de faire ça. Mais ce que tu as fait, regarde, 2000 ans après, tout le temps dans l'église, on parle de toi et puis on vient me contempler ma passion grâce à ce geste de charité que tu as posé. Vous voyez? La disproportion. Celui qu'on appelle le bon larron, pareil. Pensait qu'il était bon, ben non, pas du tout. Mais voilà que crucifié à côté de Jésus et d'un autre supplicié, il va se repentir, il va ouvrir son cœur à la miséricorde, et il recevra cette parole puissante. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors tous les gens qui passaient devant, en plus, vous savez, il y avait un chemin exprès, les Romains, ils crucifiaient les gens exprès dans un endroit pour que les passants sur la route voient bien l'horreur, pour qu'ils fassent gaffe. Comment les gens regardaient ce larron et les deux crucifiés avec Jésus, de loin? Ils disaient, ouais, ça doit pas être drôle, et puis il faut qu'on fasse gaffe quand même. Parce que ça rigole pas, hein, les Romains. Vous voyez un peu le regard? Tellement loin de ce qui se passe. Vu de Dieu, c'est une révélation de la miséricorde. Vu du chemin en passant, ben c'est une atrocité. Quelle disproportion! D'aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, mes pensées des vôtres. Alors, mais Jésus, apprends-nous à bien regarder, à re-regarder, à regarder les choses, parce que moi, quand je me regarde ma vie, ben, j'ai une certaine manière de la regarder. Alors, il y a des choses sur lesquelles, quand même, ouf. Quel est ton regard, Jésus, sur ma vie? Quel est ton regard sur ma personne, Jésus? Restons 2 secondes sur la passion de Jésus. Jésus en croix, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. En livrant ses paroles de feu, Jésus a regardé. Il a jeté un regard sur sa mère, sur Jean. Et à l'intérieur même de ce regard, il a donné sa mère à Jean, et à travers Jean à chacun de nous. Et il a donné Jean à sa mère. Et à travers Jean, chacun de nous, nous sommes à Marie, nous sommes ses enfants. Ça s'est fait par une parole, oui, mais en amont de la parole, il y avait ce regard. Voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il nous faut donc, frères et sœurs, réapprendre à bien regarder. Passer du faire-face au face-à-face. C'est une clé très importante. Passer de la gestion à la régence, à la royauté. C'est deux choses différentes. Y en a qui gèrent les problèmes, et donc ils se lèvent le matin et ils ont dit, bon, ben quels sont mes dossiers dans lesquels je dois avancer? Et puis il y en a d'autres qui se lèvent le matin et qui se disent, mais moi je vais vivre ma vie face à toi, Père. Et puis, je vais régner. Si, on va traiter des dossiers, on va résoudre des solutions, oui, on va faire tout ça. Mais, frères et sœurs, si nous vivons nos journées quotidiennes pour essayer de faire face, on ne verra rien. On ne verra rien de l'intervention divine dans notre vie. Parce que pour voir la gloire de Dieu, il nous faut croire, il nous faut avoir les yeux de l'âme levés vers le ciel. Et si notre cœur est en haut, si notre cœur est en repos, si notre cœur est calé dans l'amour du Père, je vous garantis qu'on va passer nos journées complètement différemment. Je reviens sur deux moments très importants. Le repos de Dieu, le septième jour, le Shabbat. Dieu crée toutes choses en six jours, c'est symbolique évidemment, c'est pas scientifique bien sûr, c'est symbolique, ça nous dit quelque chose de très important. Au terme de cette création merveilleuse, il y a le mystère de la création de l'homme et de la femme, unis dans cette nature humaine, unité, complémentarité, et voilà que Dieu voit que c'est très bon, et le septième jour, il se repose, il chôme, il achève. L'achèvement de la création, c'est le repos, le Shabbat. Et c'est une loi perpétuelle, nous dit Lévitique 24. C'est-à-dire que si cette loi du Shabbat demande à être accomplie en Jésus, on va le voir, la réalité du repos est une loi perpétuelle. Nous sommes faits non pas que pour transformer l'univers, non pas que pour faire face à ces pleines choses à faire, à transformer. Non. Le septième jour, le Shabbat, est très important parce que ça nous révèle l'ultime. Ça nous révèle notre vocation ultime à la contemplation de Dieu. Nous ne sommes pas faits que pour bosser, non. Que pour transformer l'univers, non. Nous ne sommes pas faits que pour connaître cet univers, non. Nous sommes faits pour aimer. Nous sommes faits pour Dieu. Nous venons de lui et nous allons vers lui. Alors, l'institution du Shabbat est quelque chose qui perdure. Et de voir Dieu à l'œuvre et au terme de cette œuvre se reposer, chômer, eh bien c'est pour nous faire entrer dans son repos à lui. Nous voyons bien que dans nos activités quotidiennes, lorsque nous faisons des choses, lorsque nous avons terminé, et que nous avons bien terminé les petites œuvres que nous avons à faire, on est content, il y a un petit repos. Un chantier, une mission que je me suis donnée, tailler les haies du jardin, ouais. Puis voilà que j'ai mis en branle mon organisation, mes outils, etc. Et puis quand j'ai fini, je suis content parce qu'en plus j'ai bien fait, tout est propre, tout est nickel, tout est top. Merci Seigneur, repos. Ah oui, le repos c'est la fin du mouvement dans le monde physique et c'est la fin de l'œuvre humaine. L'œuvre est achevée, lorsqu'elle est bien achevée, celui qui a œuvré entre dans le repos. Combien plus, cela nous dit que nous sommes des créatures qui sont faites pour entrer dans le repos avec Dieu. Il y a une gratuité, si vous voulez, dans l'amour. Et cette dimension de gratuité, il ne faut pas passer à côté, parce que sinon, on utilise les gens en vue d'une œuvre. Mais Dieu ne nous utilise pas. Non, il nous aime. Alors, bien sûr, il aime passer à travers nous, mais ne passons pas à côté de la gratuité, de l'amour. Quand Dieu nous aime, c'est gratuitement. Alors, le Shabbat est très important parce que, justement, il nous fait rentrer dans le regard de Dieu sur toute chose. Le regard de Dieu qui est content, qui se repose dans sa créature, homme et femme, et dit ben viens avec moi, viens te reposer avec moi, et tu verras à quel point ce que je fais, ce que je dis par ma parole, ce que je fais dans ma volonté, viens te reposer avec moi et contemple l'œuvre que je fais. Si tu n'entres pas dans la contemplation de Dieu, qu'il a de lui-même et qu'il a de son œuvre, oh, tu seras toujours préoccupé, parce que tu seras toujours dans la gestion de ta vie. Or, je ne veux pas que tu sois un gestionnaire de ta vie. Je veux que tu règnes avec moi. ici-bas, et que tu contemples mon œuvre et que tu collabores avec moi. Collaborer, c'est avoir partagé le même labeur. Mais c'est très reposant. Très reposant de collaborer avec Dieu. Pourquoi? Parce que cette collaboration est une collaboration qui est sertie dans une unité dans l'amour. Alors, méditons, revenons souvent dans cette réalité du Shabbat qui, encore une fois, nous dit le Lévitique 24:8, c'est une loi perpétuelle. Non pas tant dans la manière de la vivre que dans la réalité qu'elle est. Il nous faut entrer dans le repos que Dieu a promis. Et la lettre aux Hébreux nous parle beaucoup de ce repos en Dieu dans lequel personne, pas beaucoup, n'entre. C'est le croyant qui entre dans le repos de Dieu, c'est le croyant. Le croyant, c'est-à-dire celui qui s'appuie sur Dieu, qui contemple Dieu à l'œuvre et qui n'est plus préoccupé par lui-même. C'est le regard de foi. Le regard de foi. Je vais y revenir. Deuxième moment très important pour nous, après le septième jour, si vous voulez, il y a le huitième, c'est le jour de la résurrection. Extraordinaire. Nous sommes les enfants de la résurrection. Nous croyons que Jésus est ressuscité, qu'il a achevé sa vie en disant « Tout est achevé !» Tout est achevé. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il rendit le souffle. Et voilà que Jésus ressuscité inaugure un monde nouveau quand même. Alors c'est extrêmement reposant, si vous voulez, de se reposer avec Dieu. Non seulement dans l'œuvre de la création, mais dans l'œuvre de la rédemption. Parce que Jésus est victorieux, hein, je vous rappelle. Au passage, Jésus n'est pas en train de dire là, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Il est victorieux. Alors si nous sommes avec le victorieux, ben, y a la paix, y a le repos. Si nous ne sommes pas avec le victorieux Jésus ressuscité, il y a de quoi paniquer, il y a de quoi avoir très très peur. Et c'est compliqué pour nous d'entrer dans le repos si nous n'avons pas la foi en Jésus ressuscité. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde, pour l'humanité. Je vais vous lire un petit passage de Jésus, que Jésus donne à Louisa Picaretta dans le Livre du Ciel, au tome 21, le 24 avril 1927, sur le monde, l'actualité. Hein ? Ah, ma fille, de graves choses doivent arriver pour que soit rétabli l'ordre d'un royaume ou d'une maison. Une dévastation générale va avoir lieu et bien des choses vont périr. On est en 1927. Certains vont y gagner, d'autres vont y perdre. Ce sera le chaos. La tension sera extrême et il faudra beaucoup souffrir avant que les choses soient rétablies et renouvelées pour donner une forme nouvelle au royaume ou à la maison. La souffrance est plus grande et le travail plus important quand il faut démolir avant de construire. Ce sera la même chose pour la reconstruction du royaume de ma volonté. Combien de rénovations sont nécessaires? Il va falloir tout bouleverser, tout abattre et détruire des êtres humains. Il sera nécessaire de remuer la terre, le ciel, la mer, l'air, le vent, l'eau et le feu afin de mettre tout en œuvre pour renouveler la face de la terre et amener l'ordre nouveau du royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Il se passera par conséquent bien des choses graves. Et moi, en voyant cela, en constatant le chaos, je me sens triste. C'est Jésus qui parle. Mais il continue, je cite, « Mais en regardant au-delà, en voyant l'ordre et le nouveau royaume établi, cette profonde tristesse se transforme en une joie si grande que tu ne pourrais la comprendre. C'est la raison pour laquelle tu me vois tantôt triste et tantôt dans la joie de ma patrie céleste. Pensons à la tristesse de Jésus à Gethsémani. Louisa répondit, j'étais très triste à cause de cette dévastation dont Jésus m'avait parlé. Ces choses graves étaient terrifiantes, des émeutes, des révolutions et des guerres. Oh, que mon pauvre cœur gémissait! Et Jésus, pour me consoler, me prit dans ses bras, me serra très fort contre son très saint cœur et me dit, ma fille, pour nous consoler, regardons plus loin. Je veux que les choses reviennent en l'état où elles étaient au commencement de la création, qui n'était rien d'autre qu'une effusion d'amour. Et cet état existe encore, car ce que nous faisons est fait pour toujours et n'est jamais interrompu. Répéter un acte ne nous cause aucune fatigue, et ce que nous faisons une fois, nous les aimons le faire toujours. Telle est l'œuvre de Dieu, un acte qui dure pour les siècles des siècles et même pour toute l'éternité. Alors voilà comment Jésus regarde au-delà, plus loin. Il regarde le Père, il regarde l'acte divin. Frères et sœurs, le dessein de Dieu va se réaliser sur la terre. Et lorsque nous sommes avec Dieu, que ce soit au septième jour, contemplant l'œuvre de la création, que ce soit contemplant l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la sanctification, normalement, l'histoire du monde, eh bien, nous met en repos. Ne nous met pas en panique. Non. La peur ne vient pas de Dieu. Non, non, non. Si nous avons un regard de foi et d'espérance sur le monde, c'est-à-dire si nous avons un regard de foi et d'espérance sur Dieu, si nous levons les yeux de notre cœur, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, alors nous pouvons aborder notre vie quotidienne et notre avenir en paix et non pas dans la peur. Pourquoi? Parce que nous pouvons regarder notre avenir avec le regard même de Jésus ressuscité. Rappelons-nous, frères et sœurs, Jésus est ressuscité, il est le grand victorieux. Si nous manquons d'espérance, c'est qu'au point de départ, nous oublions juste un petit détail. Dieu. Alors je voudrais terminer cette catéchèse d'aujourd'hui sur nous-mêmes. Nous avons des difficultés parfois à nous regarder d'une manière vraie. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, dit saint Jean. Et ce psaume 35, en toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors ce qui peut nous gêner dans le fait de se laisser regarder par le Seigneur, dans ses yeux, de nous voir dans ses yeux, plusieurs apparitions mariales d'ailleurs nous montrent cette réalité magnifique. Nous sommes dans les yeux de Dieu, dans les yeux de Marie. C'est la culpabilité. Le repli sur nous-mêmes, le remords, le retour dans notre passé, ça nous freine dans l'intensité d'échange de regards que nous avons à avoir à l'égard du Seigneur. Pour nous laisser regarder par le Seigneur, il nous faut être débarrassés du blues, de la nostalgie, de la mélancolie, de la culpabilité. Nous avons vu tout à l'heure l'aspect de l'avenir. Regardez l'avenir avec confiance et espérance, parce que si nous sommes en Dieu, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Celui qui prie n'a pas peur de l'avenir, comme dit la Gospa à Medjugorje. Mais sur nous-mêmes, sur notre propre personne et du coup sur nos frères, nous avons parfois du mal à nous laisser aimer, à nous laisser regarder en vérité. Cela vient de la culpabilité souvent, ou d'une mauvaise manière de regarder notre misère, vous voyez. Un jour, par exemple, en 1899, Luisa Picaretta, elle raconte dans le Livre du Ciel au tome 2, qu'elle était dans un tel état d'anéantissement qu'elle en était devenue impatiente et exécrable. Elle dit « Je me voyais comme l'être le plus abominable de la terre, comme un petit ver de terre qui se tourne et se retourne toujours au même endroit, sans jamais pouvoir avancer ni sortir de la boue. Oh mon Dieu, quelle misère! Je suis si méchante, même après avoir reçu tant de grâces. » Toujours aussi bienveillant pour la misérable pécheresse que je suis, le bon Jésus est venu et il m'a dit « Le mépris de soi est louable s'il est accompagné de l'esprit de foi. Sinon, au lieu de conduire au bien, il peut nuire à l'âme. En effet, si dans l'esprit de foi tu te vois tel que tu es, incapable de faire le bien, tu seras porté à te décourager et même à ne plus faire un seul pas sur le chemin du bien. Ça, c'est sans l'esprit de foi. Mais si tu t'appuies sur moi, c'est-à-dire si tu te laisses guider par l'esprit de foi, tu en viendras à te connaître et à te mépriser, mais en même temps à mieux me connaître et à demeurer confiante de pouvoir tout faire avec mon aide. De cette manière, tu marcheras dans la vérité. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Alors, on voit bien que si on se regarde soi-même en dehors du regard de Dieu, eh bien, ça va conduire forcément à la désespérance, au repli sur nous-mêmes, au découragement. Et notre misère va nous effrayer parce que nous n'aurons plus le réflexe surnaturel de nous appuyer sur la toute-puissance de la miséricorde. Et alors, on va s'en vouloir et on va se faire payer beaucoup d'être incapable, d'être misérable, et on va faire payer les autres. Tandis que si je m'accueille tel que je suis, c'est-à-dire une merveille, et bien sûr avec toute ma misère, alors je serai miséricordieux avec moi-même et du coup avec les autres. Et devant la misère des autres, l'expérience des limites des autres, au lieu d'en rajouter une couche et de les condamner, de les juger, de les écraser, parce qu'au fond c'est moi qui n'a pas accueilli jusqu'au bout la miséricorde de Dieu parce que je ne supporte toujours pas ma misère, parce que je l'ai peut-être prêtée au Seigneur, mais je ne l'ai pas donnée, je vis encore avec elle. Ma culpabilité est là. Et j'ai des coups de blues. Non. Le regard de Dieu, en vérité, si nous nous laissons regarder, je terminerai comme ça, nous pouvons fermer les yeux et accueillir ce regard que Dieu porte sur nous dans l'instant présent. Ce n'est que maintenant que Dieu nous regarde. Alors Seigneur, nous voulons nous laisser aimer par toi, nous laisser regarder, entrer dans le repos de ton amour, parce que nous sommes l'œuvre de ta création, et tu viens te reposer dans ton œuvre. Nous sommes l'œuvre de ta rédemption, et tu viens te reposer dans ton œuvre. Nous sommes l'œuvre de ta sanctification, et tu viens te reposer dans ton œuvre. Alors nous sommes croyants, Seigneur, et nous te remercions, nous t'adorons, nous te bénissons pour tout. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.